Vous écoutez France Culture.
Alors, à quel moment vous le dites ? Réplique, c'est là ? Réplique ? Non, vous voulez pas le dire ?
Réplique.
Alain Finkielkraut.
Alain Finkielkraut avec Marc Guinchet.
Ah voilà, c'est je l'ai eu. Ah oui, pour ceux qui n'ont pas eu depuis quelques semaines déjà le réplique traditionnel du samedi matin, voici quelques notes de ces variations Goldberg numéro 1 de Jean-Sébastien Bach par Glenn Gould évidemment pour vous saluer et vous remercier d'avoir accepté notre invitation ce lundi 13 avril à Alain Finkielkraut et bon anniversaire donc vous avez 30 ans, enfin on va dire que c'est l'émission réplique qui au mois de septembre prochain aura très exactement 30 ans, émission dont la première diffusion avait eu lieu le 21 septembre 1985, mais 30 ans d'accord, mais vous souvenez-vous monsieur l'académie aujourd'hui, mes contemporains, de vos 30 ans à vous.
De mes 30 ans à moi, non.
Comment étiez-vous quand vous aviez 30 ans?
Comment j'étais quand j'avais 30 ans?
À 31 ans, allez.
Écoutez, je commençais... C'était en quelle année? C'était en 1981.
80.
Voilà, je suis né en 49, ouais, donc ouais. 60, entre ouais. 79 et 81. Eh bien, disons que je commençais à m'arracher au conformisme générationnel.
31
Autrement
ans.
Dit, je commençais à penser par moi-même.
31 ans, toutes ses dents, mais dans son sourire, quelque chose d'espiègle qui fait passer l'ambition. L'intelligence est encore incertaine d'elle-même, prête à s'étonner, à brûler, à se surprendre. Sa jeunesse n'est pas dominée, heureusement. Et le monde qui sera à ses pieds, sans qu'il en ait la tête enflée, c'est une variété intéressante. À suivre, écrivez Mathieu Gallet, dans son journal de 1900, son journal qui en l'occurrence là est daté du 30 décembre 1980 à Paris, où je suis rentré deux jours, Alain Finkielkraut vient déjeuner, j'attends un intello en blouson râpé, poil hirsute et barbe de trois jours, c'est un bon élève de Sciences Po qui arrive, chemise bleue, pull jaune, presque ça aujourd'hui aussi, c'est un bon élève de Sciences Po, voilà, et puis veste de sport grise de bonne qualité. L'œil est bleu, rieur, les cheveux mi-longs, le visage long avec des traits fins corsés par une mâchoire forte et une bouche dessinée, large, gourmande, de garçon qui ne dédaigne pas les joies de ce monde. Ça colle toujours, Alain Finkielkraut, à ce portrait de Mathieu Gallet, le journal chez Grasset.
Oui, il m'avait, je ne le connaissais pas, il m'avait... invité.
Il avait dû vous trouver bon mec.
Peut-être quelques semaines ou quelques mois après l'apparition du Juif imaginaire. Nous sommes rentrés, je ne savais pas que j'allais faire quelques paragraphes. J'aurai l'honneur de quelques paragraphes de son journal, je n'ai pas les yeux bleus, malheureusement pour moi. Sinon, son portrait est-il exact? Il est en tout cas très flatteur, mais il fait de moi quand même une espèce de Rastignac, l'ambition, etc. Je ne suis pas sûr que je correspondais exactement à cette image, parce que, si vous voulez, toute ma vie, quand j'ai écrit un livre, j'ai pensé que c'était le dernier. Et c'était déjà vrai du premier, écrit tout seul, Le Juif imaginaire. Donc, je ne pouvais pas avoir de plan de carrière, car je ne me suis jamais vécu comme un écrivain inspiré.
En tout cas,
mais cela étant, je lui suis très reconnaissant.
En tout cas, il avait vu très juste, encore quelques lignes, l'intellectuel pas desséché, écrit déjà de vous, vous avez 31 ans à l'époque, Mathieu Gallet, G-A-L-E-Y, Alain Finkielkraut. Oui. Et puis, il dit de vous, au fond, que voilà, vous n'avez jamais été encarté nulle part et vous vous démarquez un peu de tout le monde dans ses opinions sémito-réformistes qui heurtent la gauche parce que trop sioniste et la droite parce que trop favorable néanmoins à la gauche. Et dans l'Express qui vous consacre une interview de cette semaine, le point de cette semaine, dans Le Point, vous dites, voilà, non, je ne suis ni de droite ni de gauche, mon parti n'existe pas. Vous ne devez pas varier dans Iota de ce que Gallet déjà voit de vous quand vous avez 31 ans.
Alors, je n'utilise pas exactement l'expression « je ne suis ni de droite ni de gauche », parce que j'ai en tête le livre de Zev Sternel, « Ni droite ni gauche », consacré au fascisme des années 30. C'était leur slogan.
Et c'est, alors, le slogan aujourd'hui, faire... et c'est le slogan aujourd'hui du Front National.
Oui, hein, et donc, je ne vais pas faire ce cadeau à mes ennemis. Oui. En effet, j'ai un tempérament au départ plutôt progressiste, parce que je ne m'y résigne pas à l'ordre établi, à ce que le destin de chacun soit irrévocablement fixé par sa naissance. Il n'en reste pas moins que la catégorie du progrès ne peut pas, si vous voulez, regrouper tout ce qui arrive aujourd'hui. En effet, dans cet entretien du point, je cite quelques exemples. Il ne me semble pas que le fait pour un professeur d'être obsédé par l'idée de tenir sa classe soit un progrès par rapport à l'époque où moi-même je suis entré dans l'enseignement. J'étais professeur dans un lycée technique à Beauvais et j'ai rencontré il y a quelques jours une ancienne élève, elle m'a croisé boulevard Montparnasse, elle m'a dit j'étais votre élève à Beauvais et elle m'a rappelé que c'était une classe de F, donc une classe vraiment de technique, de fabrication en quelque sorte, et elle m'a rappelé que je mettais les tables en carré. Hein, j'arrivais, je mettais table en carré pour qu'il n'y ait pas d'estrade, pour qu'on soit tous à égalité. Et elle m'a dit, je vous remercie parce que vous nous avez fait étudier des textes contemporains. Et je me souviens en effet d'avoir fait étudier Mercier et Camier de Samuel Beckett. C'est pour vous dire que je ne craignais pas le chahut à cette époque.
Et, Pourquoi vous le craignez aujourd'hui?
Je pense que tous les profs... Non, moi non, ça va, je vous remercie.
Rue Vavin, c'est calme. Hein.
Non, c'est pas seulement la rue Vavin qui est calme. Et puis, c'est pas la peine de faire ce genre d'allusion. J'ai longtemps habité Bourg-la-Reine. J'ai enseigné à l'école polytechnique. En effet, la discipline allait de soi. Ce que je sais, c'est que beaucoup de professeurs dans les lycées, dans les collèges techniques ou ailleurs, arrivent en cours la peur au ventre. Et ça, j'en ai été, si vous voulez, j'ai été complètement indemne de ce sentiment. Donc, voilà une raison, entre autres, pour laquelle il n'est pas possible aujourd'hui de parler de progrès. Et les progressistes, malheureusement, invétérés, veulent voir, quoi qu'il arrive, du progrès partout et frappent, si vous voulez, la nostalgie d'opprobre, parce que se tourner vers la France d'avant, c'est faire comme si la France de la diversité n'avait pas que des charmes, et c'est déjà être suspect de racisme.
Alors sur les questions, bien sûr, nous y reviendrons plus longuement en deuxième partie, avec notamment Brice Couturier, et puis pour reprendre au fond les quelques faits saillants de cet entretien au point, civilisation, école, laïcité, identité, votre grand réquisitoire, titre le point, contre les lâchetés d'aujourd'hui. Tiens, ça me fait penser que vous n'avez pas varié en revanche dans Iota sur les questions de débat intellectuel entre la première émission d'il y a 30 ans, Alain Finkielkraut, et vos convictions sur les questions de débat. Aujourd'hui, vous vous souvenez de votre première émission ?
Oui, c'était... Alors donc, cette émission a été créée, il faut le rappeler, par Jean-Marie Borzex, qui a réaménagé complètement la case matinale du samedi de France Culture, sous le titre générique « Les temps modernes ». J'étais amené à remplacer, à l'époque avec Gilles Anctil, une émission qui s'appelait « Le monde contemporain », un dialogue légendaire entre Jean Debert et Francis Crémieux, vieux gaulliste et vieux communiste.
Garbi nous régale souvent des archives la nuit,
voilà,
absolument.
Vieux gaulliste et vieux communiste. Et donc, la première émission mettait aux prises François Furet et Max Gallo. Max Gallo, à l'époque, était porte-parole du gouvernement, et il était celui qui avait fustigé en 82 le silence des intellectuels. Ce qu'il appelait de silence des intellectuels, c'était le refus par un certain nombre de ceux-ci de s'aligner sur la politique du gouvernement. Max Gallo a beaucoup évolué depuis, mais ce fut en effet une très belle émission. Et je dois dire que on ne pouvait pas mieux commencer, si vous voulez, que par cette opposition entre Furet et Gallo.
Une émission enregistrée à la Maison de Radio France le 18 septembre 1985 et diffusée le 21.
Il y avait Borzex.
Et vous étiez Charlie, déjà.
Ah bon ?
Alain Finkielkraut.
Gilles Anquetil.
Voici donc, placé sous le patronage de Charlie Chaplin, qui a composé la musique que vous venez d'entendre, le premier numéro de répliques. Le principe de cette émission est simple. Il s'agira, une fois par semaine, d'un débat entre deux invités sur une question fournie par l'actualité ou sur une question négligée par elle. Notre but, à Ginanctil et à moi-même, mettre l'actualité en perspective ou bien la mettre à distance, mais s'efforcer, dans tous les cas, de ne pas succomber à sa dictature.
Voilà, ça a été déjà le cahier des charges d'il y a 30 ans, c'est toujours celui d'aujourd'hui. C'est aussi un peu le cahier des charges de France Culture en général, si je puis me permettre. Alain Ficalcrotte, après tout, nous débarquons ici, en pleine grève encore, 26e jour. C'était comment le France Culture d'il y a 30 ans, qui était une radio, on le sait, très peu écoutée par rapport à aujourd'hui. Et le France Culture d'aujourd'hui, vous voyez la situation comment, et ce Radio France aujourd'hui
Peut-être, en effet.
Sous tutelle.
Radio France, disons peut-être. Vous me demandez quoi ? De m'interroger sur l'évolution de Radio France ou sur la grève actuelle ?
Les deux, mon général. C'est-à-dire que comment vous percevez aujourd'hui ? On n'a jamais vu ça. Hein. Un mois, hein, nous sommes quasiment à un mois de
Alors,
grève.
Alors, il y a, à France Culture en tout cas, une volonté d'accueillir peut-être plus largement l'actualité que ce n'était fait auparavant. J'espère que ce ne sera jamais au détriment de la vocation patrimoniale de France Culture. Je pense souvent à cette très belle phrase du penseur colombien Nicolas Gomez d'Avila. L'âme cultivée, c'est celle où le vacarme des vivants n'étouffe pas la musique des morts. Il s'agit à France Culture, comme à France Musique, justement, de faire entendre aussi la musique des morts. Maintenant, parlons de...
D'aucuns s'étonnent que ça dure aussi longtemps. Après tout, vous parlez-vous des lâchetés d'aujourd'hui. Certains observateurs nous font remarquer qu'il y a des lâchetés multiples qui font que cette grève, au fond, est interminable, qu'elle ressemble à un conflit des années 70, alors qu'elle aurait dû être sans doute réglée en 2-3 jours. Allez.
Je ne sais pas. C'était, je sens qu'il y a une direction qui, semble-t-il, a assumé un certain nombre de contraintes budgétaires et des syndicats qui font grève, notamment et surtout pour le maintien de l'emploi. La direction ne menace pas de licenciement sec, mais elle prévoit, semble-t-il, un certain nombre, un nombre important de départs volontaires à la retraite. Là-dessus, je n'ai pas tous les éléments pour intervenir. Ce que je regrette, si vous voulez, c'est que précisément les questions de finalité et de contenu du service public n'apparaissent pas suffisamment dans le discours de l'un et de l'autre. Donc ça donne quelque chose d'assez illisible. Je me souviens d'avoir lu, au début de la grève, un très bel article dans Le Monde de Philippe Meyer sur ce que doit représenter non seulement France Culture, mais le service public, l'originalité du service public de la radio aujourd'hui en France. Je regrette que cet article n'ait pas, de part et d'autre, je dois dire, reçu plus d'écho. Voilà, ça aurait permis à tous les Français de s'intéresser davantage à cette grève, à laquelle, effectivement, ils ne comprennent pas grand-chose.
Est-ce qu'un conflit comme celui-ci, comme il y en a d'autres aujourd'hui, on parle d'un dialogue social en France aujourd'hui en panne, paradoxe d'ailleurs, sous un gouvernement socialiste qui entreprend lui-même une réforme du dialogue social, est-ce que vous pensez plus généralement, Alain Ficalcrotte, qu'il y a des lâchetés dont vous parlez ou qu'il y a des défauts, si l'on se réfère après tout à Marc Bloch et à l'étrange défaite, des défauts de commandement aujourd'hui. Un extrait cité par Stanley Hoffman de Marc Bloch. La cité étant au service des personnes, le pouvoir doit reposer sur leur confiance et s'efforcer de la maintenir par un contact permanent avec l'opinion. Et sans doute cette opinion peut-elle, doit-elle être guidée, mais elle ne doit être ni violentée, ni dupé, et c'est en faisant appel à sa raison que le chef doit déterminer en elle la conviction. Bon, magnifique ligne de Marc Bloch, mais d'abord on a l'impression qu'on en est un peu
Non, on en est
orphelin,
très loin, et la France est aussi ce pays paradoxal où les syndicats sont très faibles, ils mobilisent beaucoup moins que dans d'autres pays, et en même temps ont un pouvoir de blocage sans commune mesure avec ce qui existe ailleurs en Europe. D'où, effectivement, la difficulté pour les gouvernements de réformer. Mais si je reviens à Radio France, Personnellement, depuis l'arrivée de Mathieu Gallet...
GA 2LET, en l'occurrence.
Oui, là, hein, je n'ai entendu, pour ce qui est de France Culture, qu'un objectif. On m'a dit, vous allez mettre un jingle à l'intérieur de votre émission, vous écoutez France Culture, réplique Alain Finkielkraut. J'ai dit, jamais, jamais. Je ne peux pas interrompre un dialogue entre François Furet et Max Gallo par une phrase comme celle-là. Non,
le dialogue ne doit être radiophonique, ça, Alain Finkielkraut,
on rappelle aux auditeurs. Ne doit être pollué par rien. Ce que m'avait appris Jean-Marie Borzex, c'est précisément de donner... de rappeler le nom de mes interlocuteurs à chaque fois que je leur passe la parole. C'est le moyen, justement,
ça, c'est
de prendre les auditeurs en cours de route. Le petit jingle, oui, mais si vous voulez, quand il s'agit d'une radio comme celle-là, on peut avoir, semble-t-il, d'autres idées et une autre ambition. Donc, d'un côté comme de l'autre, la vision des finalités me semble manquer gravement.
Dans un quart d'heure, presque un peu plus d'un quart d'heure, la deuxième partie de l'émission avec vous, Alain Finkielkraut, sera introduite par Brice Couturier. Bonjour Brice.
Bonjour Marc, bonjour après tout ce temps. Oui, je voudrais vous parler philosophie un petit peu et vous poser la question suivante, Alain Finkielkraut. L'histoire de l'Europe depuis les Lumières et peut-être même la Renaissance se confond avec l'idée même de modernité. Alors comment peut-on prétendre demeurer fidèle à la culture de l'Europe en paraissant mettre en procès la modernité elle-même, comme vous le faites dans beaucoup de vos ouvrages?
La réponse, ce sera à 8h15, vous aurez le temps d'y...
C'est la grègue, là.
C'est
un oral, mais j'ai un quart d'heure pour préparer. La grande leçon, j'avais 6 heures.
Oui, écoutez, vous êtes à France Culture en même temps, Finkielkraut. Est-ce que vous vous souvenez tout de même aussi, alors, de ce qu'était tout de même la radio publique il y a 30 ans? Est-ce qu'elle était meilleure ou moins bonne qu'aujourd'hui?
Je ne dirais pas cela. Non, elle n'était pas... elle n'était pas... Et d'abord, les changements ne sont pas... dramatique ou trop spectaculaire. Jean-Marie Borzex avait déjà réorienté France Culture. Ses successeurs ont essayé d'approfondir le changement.
Voilà. Et avec le succès que l'on sait, puisque la radio, souvenez-vous, quand vous avez débuté, était ce qu'on appelle dans la marge d'erreur à l'audience, 0,7 points. Elle est aujourd'hui à 2,2. Vous allez me dire, l'économisme et les chiffres encore. Mais chiffres-là nous sauvent éventuellement, vous savez, Alain Finkielkraut.
Mais si vous voulez, moi je suis très heureux, très touché, rouge de confusion, de savoir qu'il y a de plus en plus d'auditeurs à France Culture, et peut-être à votre émission.
Qui sait?
J'ose pas y penser.
Il faut rappeler que les 30 ans, votre anniversaire qui devait être célébré, l'anniversaire ce moment-là sera reporté pour sans doute à la rentrée prochaine. Mais quoi qu'il arrive, la fête aura lieu.